Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, le 11 juin 1998 à Saint-Jeudard.
Lorsqu'on parle du problème de l'un et du multiple, au point de vue philosophique, il faut bien comprendre que ce qui caractérise la pensée de Platon, la pensée de Plotin et du néoplatonisme, c'est d'avoir mis l'un au-dessus de l'être. Vous voyez, si ils sont en tant que historien de la pensée du Moyen Âge et du monde actuel, dit que tout se ramène à l'ordre qui existe entre l'intelligence et l'être. C'est que pour Platon, l'un est au-dessus de l'être. Et que c'est l'un et le bien qui sont au-dessus de l'être. Pour Platon, c'est net dans son affirmation. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment Platon est arrivé à l'affirmation de l'un au-dessus de tout, et par le fait même du multiple. Pour Aristote, la distinction fondamentale, c'est l'être et le devenir. Ce n'est pas l'un et le multiple. On le verra après. Parménide prend le point de vue de l'être. Donc, il sait bien ça. Et le Parménide de Platon, reprend tout par le point de vue de l'homme. L'intuition platonicienne qui domine dans toutes les œuvres de Platon, c'est l'intuition de la forme en soi. C'est cela qui est l'aspect positif. Et ce qui est très net chez Platon, c'est que l'intelligibilité et l'être s'identifient. Alors, il faut voir comment, si on affirme la primauté de la forme en soi comme étant ce qui domine, l'intelligibilité et la réalité s'identifient. Ce qui est au cœur de toute la position de l'ontologisme. Et Platon, à ce point de vue-là, est le père de l'ontologisme. Tout platonicien est ontologiste. On identifie la réalité existentielle avec l'intelligibilité de la réalité. Et c'est pour ça que firme. certitude, la plus grande certitude, c'est dans la négation. C'est pour ça que l'enfant aime de nier, parce qu'il s'affirme. C'est par la négation qu'on s'affirme le plus. Et si la négation devient quelque chose de premier, nécessairement, l'un est avant l'être. Et ça, c'est très important, parce que ça montre, je crois que point de vue critique, on peut le dire, ça montre que l'affirmation de l'un avant l'être, c'est affirmer que la négation est première par rapport à l'affirmation, parce qu'elle est plus certaine, non pas évidente, mais la plus certaine. Vous voyez, autrement dit, l'évidence de la primauté de l'être va tout de suite faire qu'Aristote va affirmer l'analogie de l'être. L'être se dit pour la cause. Cette affirmation d'Aristote qui est très forte, l'être se dit de multiples façons. Première affirmation d'Aristote pour la primauté de l'être. Si l'être se dit pour la cause, c'est l'analogie de l'être. L'être est au-delà de la diversité. Mais la diversité nous permet d'atteindre l'être. Yeah. et le platonisme a beaucoup plus d'adeptes que l'aristotélisme. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, on est très incliné toujours vers cet aspect démocratique qui devient, au plan politique, la vérité. C'est assez affolant, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. La vérité, elle est donnée par le suffrage universel, politiquement. L'opinion politique, c'est celle qui est la plus admise. Et c'est elle qui régit. Il n'y a plus de finalité, il y a le suffrage universel. Alors, on voit bien comment, au plan politique, le platonisme l'emporte de beaucoup sur l'aristotélisme. Alors, pour Platon, l'un est premier. Et mon intelligence humaine est beaucoup plus en connaturalité qu'avec l'être. Mais voyez, la négation vue en premier ne fonde pas l'analogie. Ça fonde l'univocité. Et pratiquement, l'univocité va se fonder sur la dialectique dans son raisonnement. On va trouver les oppositions pour comprendre la fécondité. La guerre est le père de toute chose, parole d'Héraclite. Parole que Hegel aime. Dépassement de l'opposition, ce sera l'unité humaine qui implique le lien avec l'âme et le corps. Dans Platon, c'est très net. Dans Plotin, disciple de Platon, c'est encore plus précis. Les Énéades de Plotin sur l'un sont extrêmement significatives là-dessus. Et la critique de Plotin sur les catégories, c'est aussi très significatif. Et donc, au-delà de l'être, Vous savez, l'un principe premier étant donné que l'être, pour Plotin aussi, c'est l'intelligibilité, l'identification. Et donc, on retrouve chez Plotin un ontologisme absolu. Et au fond, c'est ça qui serait intéressant à voir. C'est ce point de vue-là. Toujours enveloppé de cette position platonicienne ou néo-platonicienne. C'est-à-dire qu'au fond, notre philosophie est toujours face à ce même problème. Est-ce que l'intelligence est faite pour ceux Est-ce que l'intelligence est en premier lieu faite pour les formes en soi, les définitions? Affirmer que ce qu'il y a de premier de notre vie intellectuelle, c'est bien ce qui est pris d'une manière. Le problème de l'un et du multiple est le problème principal de toute la philosophie. Je me souviens certaines discussions avec des professeurs de Louvain avant la division de Louvain, premier et puis Louvain, nouvelle de langue française. Philosophiquement, si je cherche la vérité, le problème de l'un et du multiple présuppose le problème de l'un et du devenir. Alors, essayons d'entrer dans ce problème de l'un et du multiple dans la perspective d'une recherche de vérité. La vérité ne se définit pas par l'un multiple. Adéquatio de mon intelligence et de la réalité de ce qui est. Je ne dis pas adéquation de mon intelligence avec l'un. Mais, et ça c'est intéressant à noter, c'est que en métaphysique, le problème de l'un et du multiple présuppose le problème de l'être. En critique, le problème principal, c'est le problème de l'unité et de la diversité, la multiplicité. Parce que la critique, elle, ne regarde pas en premier lieu Première question. en philosophie réaliste. Quelles sont mes grandes expériences de l'un? J'ai diverses expériences de l'unité. Peut-être que l'expérience la plus visible, c'est dans l'œuvre artistique. L'unité est quelque chose de très important. L'harmonie, c'est une unité au niveau du mouvement et des dynamiques en quelque sorte qui permet le développement homogène d'une certaine inspiration. L'harmonie dans le rythme, l'harmonie dans les relations de couleurs, de formes, de volumes. Il y a là une expérience de l'unité qui me semble très nette. Nous avons tous senti que dans un chef-d'œuvre, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est l'unité. C'est une expérience. C'est pas une induction. Non. Il n'y a pas d'induction au sens fort de l'un. Mais il y a une expérience. Et la première expérience, c'est l'expérience artistique de l'œuvre d'art. Au niveau de la forme, de l'unité de la forme, de l'unité de l'harmonie, ou plus exactement de la force de l'harmonie, puisque l'harmonie implique une unité. Une œuvre d'art où la division domine, où les oppositions dominent, je serai en présence d'un art où on représente un monde cassé, brisé, et c'est très difficile d'arriver à exprimer ça dans une œuvre d'art. Où la brisure domine. Mais dans notre monde artistique aujourd'hui, très souvent, la brisure domine. Et puis, il y a quelque chose de l'unité à travers la brisure. Mais je ne sais pas si une œuvre la brisure, monde cassé, peut arriver à la plénitude d'une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui représente le monde cassé, la division. C'est vrai qu'aujourd'hui, on on aime ça. Parce qu'on vit de toutes ces brisures. Et on est dans toutes ces brisures. Et on retrouve dans l'art quelque chose de ce monde brisé. Et l'expérience artistique monte d'une façon très particulière ces brisures, source de multiplicité, source d'opposition. La psychologie aujourd'hui se fonde aussi sur ces brisures. Et elle manifeste constamment ses brisures en montrant que, à la place de la finalité, c'est constamment la récupération de la jalousie qui va commander toutes les actions. C'est curieux que le fondement psychologique, brisé, commande des récupérations et commande des compensations, comme on dit aujourd'hui. Si vous avez une crise de folie, des compensations, vous vivez dans un autre monde pour récupérer ce que vous n'avez pas dans le monde conventionnel d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, on considère que notre monde aujourd'hui est conventionnel, il est plus naturel. Alors il y a la récupération. Et c'est très curieux. La récupération, c'est une recherche d'unité et non pas de finalité. C'est fatigant de vivre dans l'aspect conventionnel qui accepte ses oppositions. Et on essaie de récupérer, de reprendre. Et au fond, c'est comme un jeu dans lequel, de fait, il n'y a pas de finalité. Et on cherche, à travers les oppositions, ce qui pourra être maintenu d'unité. Alors on maintient l'unité par la victoire et par la force. On maintient l'unité par les récupérations quand on est le plus faible. Les récupérations, les compensations, c'est essayer à notre manière de retrouver l'unité. Parce qu'on n'arrive pas à la dépasser. Le conventionnel est tellement fort dans le point de vue de la communauté. C'est tellement fort qu'on étouffe. Il y a un air conditionné. Alors on étouffe. Et parce qu'on étouffe, on veut survivre. Et la survie, elle est dans ce domaine des compensations, dans ce domaine des récupérations. La première convention, elle est au niveau de la nourriture et de la réflexion qu'on faisait. C'est curieux, ces Européens, ils ont faim quand ils regardent leur montre. C'est midi. Ou c'est midi ou une heure. Peu importe, c'est conventionnel. C'est vrai que c'est très conventionnel de mettre leur pain à midi ou de leur mettre à une heure. C'est conventionnel. On le met là, de fait. On considère que l'estomac général Or, il n'y a rien de plus individuel que l'estomac. Mais on le met en vie commune. Il faut bien un repas commun. Est-ce que les lions mangent à midi? Est-ce qu'ils subissent cette convention? Ils se réunissent quand ils ont faim? C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. De manger aux heures données. Et on est farouche. Prendra son biberon. À telle heure. C'est l'aspect conventionnel qui s'applique en premier lieu. Toutes les récupérations. Les récupérations, c'est... On sait très bien ce que ça représente. Prendre la nourriture au moment où personne ne la prend. On est seul à la prendre. C'est les récupérations. Et on fait ça très habilement dans les communautés. Il y aura un lieu où on pourra toujours trouver la nourriture. Et on sera très étonné de retrouver le voisin à ce moment-là. Alors à ce moment-là, la récupération ne se fait plus parfaitement. Ça devient conventionnel, on est deux. Et ça nous chiffonne. Et tiens, c'est curieux. C'est très curieux de voir ça, le problème de l'unité. Parce que c'est un problème de l'unité. L'unité d'une communauté, c'est de les repas. Et une communauté religieuse, c'est la prière avant les repas. Et donc plus important.
Artificiel.
tradition tient à l'unité plus qu'à tout le reste. On dira, c'est formel. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Vous voyez, c'est très curieux dans cette critique qu'on fait, en disant, vous êtes trop formel. Vous êtes trop platonicien. Et vous mettez la forme au-dessus de tout, alors qu'il faut la finalité. Et la finalité, c'est qu'il faut manger quand on a faim, normalement. Parce que je mange pour pouvoir travailler, normalement. Je ne travaille pas pour pouvoir manger, oui, aussi. Alors, parce que je dois gagner ma vie, alors je travaille. Il faut bien travailler pour avoir de quoi manger. Alors vous voyez la différence. Je travaille pour manger. Je mange pour travailler. Le primat de la cause matérielle, le primat de la cause finale. Et les deux se tiennent dans la vie végétative. Et la différence qu'il existe dans une philosophie où tout s'ordonne en fonction du travail, où tout s'ordonne en fonction de l'amour. Il faut saisir l'importance de l'ordre que nous mettons notre vie, l'importance de mettre une certaine finalité concrète, au contraire de dire « Oh, ça m'est égal, pour moi le désordre, c'est mon vrai repos. » Et quand vous essayez de mettre le désordre comme un vrai repos, vous voyez qu'il n'y a rien de plus fatigant que le désordre. Oh, l'ordre, c'est l'unité dans la diversité. Il y a un certain ordre naturel. Vous le voyez dans les abeilles. Elles travaillent pour pouvoir se reposer. D'unité que vous avez, j'ai pris les deux premières qui sont les deux plus fondamentales dans l'œuvre que nous faisons, dans l'organisation de nos vies. Première chose que